à voix nue. Caroline Brouet, cette semaine, je reçois...
Noël Ehrenschmidt, aquarelliste reporter.
Premier épisode, l'enfance du dessin. Bonsoir Noël Ehrenschmidt.
Bonsoir.
Je suis très heureuse de faire cette série d'entretiens avec vous parce que vous êtes unique en votre genre. Vous êtes, bah vous l'avez dit vous-même, vous tenez beaucoup à cette présentation, aquarelliste reporter. Parfois on peut lire reporter aquarelliste, vous allez nous dire si vous, vous y voyez une différence. Ça veut dire que vous dessinez à l'aquarelle, et ce depuis 35 ans, et que vous le faites lors de reportages ou d'enquêtes au long cours. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de la semaine. Des reportages pour des journaux, La Croix, Le Monde, pour lesquels vous avez assisté au procès Barbie, Touvier, Papon, au procès du sang contaminé, au procès Dumas, au procès Clearstream, et jusqu'au procès des attentats du 13 novembre 2015, entre 2021 et 2022. Mais aussi des reportages plus anthropologiques, on pourrait dire, au cœur d'institutions essentielles qui représentent la justice, la santé, la religion, la politique, dans des lieux clos, comme les prisons ou l'hôpital, ou dans des lieux de pouvoir, comme l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat et même le Vatican. Ces plongées, qui sont des plongées au long cours, ont été éditées sous la forme de livres, pour la plupart avec le compagnonnage d'Antoine Garapon, magistrat et compagnon de route de France Culture, pour les textes, et de Frédéric Houssin pour les maquettes. Ce sont des livres qui sont plus que beaux. Ils sont instructifs, ils sont vivants, ils sont pédagogiques, ils mêlent images et mots, mais surtout ils parviennent à restituer la substantifique moelle, certaines diraient l'âme, de ces lieux et des gens qui les habitent. C'est une œuvre fantastique, tant elle donne à voir au plus près le travail de ces hommes et de ces femmes au cœur de notre vie démocratique et institutionnelle, et tant vous réussissez à capter l'ambiance quotidienne qui règne dans ces lieux, qui sont, à vrai dire, des lieux très rarement pénétrés par d'autres personnes que celles qui doivent s'y rendre. Donc c'est formidable parce que quel que soit le sujet, Noël Ehrenschmidt, même le plus austère, vous parvenez à attraper le regardeur et vous ne le lâchez pas. Ce qui me conduit à vous poser cette première question. Au fond, Noël Ehrenschmidt, qu'est-ce qui vous intéresse? L'humain ou le dessin?
Les deux vont de pair. Si je n'étais pas reporter, je ne suis même pas certaine que je serais aquarelliste. J'ai découvert ce métier de reporter pratiquement en même temps que celui d'aquarelliste, et pas toute jeune quand même, assez tard dans le temps, à plus de 30 ans. Et en définitive, ça me passionne. Il n'y a pas de lieu inconnu que je n'ai pas envie de découvrir pour moi, mais je pense toujours que ce que je fais est utile au lecteur. Parce que celui qui n'aura pas envie de savoir, il aura peut-être envie de regarder à cause de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est quelque chose qui est fascinant, qui est facile d'accès. Donc, il va regarder l'aquarelle. S'il a du courage, il lit le texte. Et quelquefois, comme à l'hôpital, il s'en prend plein la gueule. Mais il aura eu envie d'y aller parce que je lui aurais donné envie d'aller regarder.
Vous dites que vous avez découvert le métier de reportage et l'aquarelle quasiment en même temps. On va voir ça évidemment au cours de ces entretiens. C'est pour cette raison que tantôt vous dites aquarelliste reporter, tantôt vous dites reporter aquarelliste, peu importe au fond l'ordre dans lequel on le dit.
Mais c'est vital, je suis totalement les deux. C'est-à-dire que je ne fais pas un dessin sans l'accompagner des paroles que j'entends. Pour moi, l'un et l'autre sont intimement liés. J'y tiens à la fois à l'aquarelle et à la fois à ce que j'entends.
C'est très différent de l'illustration. Vous n'êtes pas illustratrice, ça par exemple, ce n'est pas possible. Vous
n'aimez
pas ça.
Je l'ai été pendant 10 ans. Donc je crois que j'ai découvert une chose, c'est que mon monde intérieur, c'est les autres. Très important. Vous avez des artistes qui se mettent dans leur atelier, qui se prennent la tête et qui essayent de trouver en eux ce qu'ils sont. Moi, je suis ce que je découvre. Il n'y a pas de limite à ce que j'ai envie de découvrir et pas de limite au bonheur que j'ai de partager ce que j'ai découvert.
D'où Noël Ehrenschmidt, le titre général que nous avons donné à cette série, Noël Ehrenschmidt, aquarelliste sans limite. Nous allons voir aussi au cours de ces entretiens pourquoi vous dites que vous êtes sans limite. Vous avez raconté, alors en images et en mots, on peut dire la société française. Vous l'avez raconté au travers d'enquêtes sur ces institutions, la santé, la religion, la politique, mais beaucoup la justice. Est-ce que vous diriez qu'au fond, le dessin, la justice, c'est la synthèse de vos parents, père avocat, mère aquarelliste, et si on remonte aussi dans le temps, vous allez nous le dire, il y a un peu des deux aussi.
Oui, c'est totalement vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que je l'ai ignoré pendant des années. Je ne me suis jamais dit « je suis la fille de mon père avocat, la fille de ma mère aquarelliste et la petite fille de mon grand-père, de mon arrière-grand-père peintre ». Je n'en avais rien à fiche, même pas, je savais, mais ça m'était complètement indifférent. J'ai toujours tout fait à l'instinct. Et sur le tard, puisque jusqu'à ces dernières années, j'ai découvert que j'avais un grand-père à la cour d'appel,
magistrat
je l'ignorais totalement. Donc c'est venu instinctivement et ça a été analysé après sur le tas.
Et ça vous a fait quoi ?
Je me suis dit, il y a quand même quelque chose dans les gènes, dans la transmission qui s'est faite sans que je le sache. Puisque je savais bien que mon père était avocat.
Mais vous l'avez perdu à l'âge de 4 ans. Hein, donc
d'autrement dit, mon père avocat, je savais bien. Le juriste classeur qu'il avait créé, j'entendais toujours ça. Mais pour moi, c'était d'abord une évidence. Et qu'est-ce que ça pouvait faire ? Ça faisait partie de ce que j'entendais. Et puis mon grand-père qui était peintre, bien sûr que j'avais, mon arrière-grand-père, j'avais des tableaux sur les murs. Mais, et alors ? Donc c'est ça que j'ai trouvé formidable, c'est qu'avec mon grand âge, je m'aperçois que c'était évident que je devais suivre ce chemin. Mais l'avantage, c'est que je n'ai pas eu besoin de l'évidence pour commencer à ce chemin. Ce chemin, je l'ai fait à l'instinct.
Est-ce que vous diriez, par conséquent, que vous êtes né avec un dessin dans la main, enfin, ou avec un pinceau dans la main ? Vous avez appris en baignant dans l'aquarelle de votre mère et de votre grand-père.
Tout à fait. Je suis née dedans, de même que chez nous, on a toujours baigné dans le dessin. J'ai toujours fait dessiner mes petites filles. Dessiner, c'est comme pour d'autres la musique, c'est même pas un problème, on ne se pose pas la question. On dessine, je parle pas de l'aquarelle. L'aquarelle, je l'ai découvert avec la peinture bien après. En tout cas, le dessin, on est avec chez nous. C'est une évidence, j'ai dessiné depuis toujours. Je dis toujours que j'ai baigné dans mon enfance, dans l'aquarelle de ma mère.
Et d'ailleurs, vous êtes plongé ou replongé dans les dessins de votre mère, dans votre maison où nous sommes, à Sceaux, maison familiale, hein, maison dans laquelle vous êtes depuis très longtemps, Noël Ehrenschmidt. Il y a des dessins de votre mère et il y a des dessins de votre grand-père. Vous nous en diriez quelques mots ?
Oui, ça c'est quelque chose. Dans la maison, il n'y a que des choses faites à la main sur les murs. Il n'y a aucune reproduction. Et quand je dis que j'ai été élevée par les aquarelles de ma mère, par les aquarelles que ma mère a fait à 15 ans de sa propre maison, c'est quelque chose que j'ai toujours eu devant les yeux, de même que j'ai toujours eu dans les yeux les paysages de mon arrière-grand-père, 1872, à la fois poétique, comment vous dire, réaliste, mais surtout totalement évocateur. Mais j'ai aussi les dessins de mes filles, puisque beaucoup de mes filles dessinent. Donc, on a une espèce de panel de toute la famille qui m'encadre et qui m'entoure et qui fait la base de mon décor et de ma vie personnelle. Je suis née dans le dessin, j'ai vécu dans le dessin et ça m'a toujours semblé normal.
Quelle était la particularité ou quelle est la particularité de l'aquarelle de votre mère ?
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand je dis que j'ai baigné dans l'aquarelle de ma mère ne peignait plus, ne faisait plus d'aquarelle quand je suis née. C'est-à-dire que maman, à 15 ans, à 14 ans, avait un métier qui était inouï. J'ai ressorti, à l'occasion de votre venue, le dossier très bien rangé. Moi qui ne range rien, ça c'est très bien rangé. Des aquarelles de ma mère. Et j'ai eu un nouveau choc en voyant à quel point, à 14 ans, à 12 ans, elle était totalement maître de sa technique, de son dessin, et je me suis dit, mais ma vieille, il faut que tu montres ça à tes petites filles. Voilà, j'ai dans la main un livre qui s'appelle « Conte de la princesse Mimose ». Non seulement elle a fait toutes les planches, mais elle les a mises dans un dossier en carton dont elle a fait le décor et dont elle a fait la présentation. Et on y va et on commence à faire le dessin du début à la fin, c'est-à-dire qu'elle a construit un livre à la main. Et il ne faut pas oublier que ma mère est née à Sceaux, près de Montargis, une petite ville. Et comme elle avait 10 ans au moment de la guerre de 14, elle a eu des cours particuliers chez elle. Je pense qu'elle n'a jamais été dans une école. Où est-ce qu'elle a pris cette science et cette culture que je retrouve dans ses dessins ? Parce que là, c'est l'histoire de la princesse Mimose. Mais là, vous avez quelque chose que j'ai découvert, qui est des dessins japonais, les 10 petits Japs, et sur des planches, elle nous fait toute la culture du dessin japonais. Il ne faut pas oublier qu'après la guerre, il y a eu quand même une passion pour l'Orient. On a découvert le Japon, on a découvert la culture asiatique, et ma mère a plongé dedans. Mais elle a plongé dedans comment ? J'en ai conclu qu'elle avait dû plonger dans les documents que mon arrière-grand-père peintre avait dû laisser à la maison, puisque ces documents, je les ai retrouvés. Et étant jeune, j'ai appris l'histoire de la peinture en noir et blanc, avec des gravures de l'époque, si on peut dire. Donc je pense que maman a baigné là-dedans, puisque regardez ce qu'elle nous fait de l'Égypte. Donc là, elle a 15 ans. Et elle nous fait une aquarelle somptueuse. Tout en bleu, avec, bien entendu, le Nil. On est totalement dans l'exotisme.
On est sur un bateau. Ou sur un quai, on ne sait pas. Mais en tous les cas, une jeune femme joue de la harpe et regarde à l'horizon, où là, pour le coup, on voit un bateau
naviguer. Donc c'est à la fois... Et je me suis dit, mais quelle culture a eu maman sans jamais apprendre? Et je pense que cette culture innée, elle nous l'a passé, puisqu'après, il y a eu le journal L'Illustration. Et étant jeune, je plongeais aussi dans ces cartons avec les dessins qui avaient été classés. L'Illustration, chez moi, elle était classée par thème. Donc j'avais le thème. Et en plus, c'est là que j'ai découvert l'aquarelle en reportage, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de photos. Et vous aviez le Tour de France, par exemple, ou des matchs qui étaient dessinés dans L'Illustration. Donc j'ai plongé à la fois dans la culture historique et artistique de maman et dans cette passion qu'a eu ce journal pour raconter en images exactement ce que je fais maintenant.
Alors c'est inné, Noël Ehrenschmidt, et pourtant vous avez fait une école de dessin. Et vous dites que vous n'avez rien appris dans cette école.
J'ai rien appris au niveau du dessin. Honnêtement, j'avais acquis totalement le dessin comme maman à 15 ans, pour être honnête. Et donc j'ai appris une chose, d'abord j'ai découvert mon mari, ce qui n'est pas rien, je l'ai découvert à l'atelier de dessin, et où là j'ai quand même finalisé toute la technique du dessin.
Mais ça c'est après, c'est l'atelier charpentier, non ?
Oui, c'est ça. Mais donc là j'ai vraiment appris, quand je suis entrée...
Les techniques.
La technique, construire. Je vais vous dire, je construis encore un dessin. Quand je fais d'énormes architectures, ça m'arrive de tendre la main avec le crayon pour mesurer les proportions entre la verticale et l'horizontale. Et puis, au niveau du dessin, c'était totalement acquis. La couleur, pas du tout. Et j'ai rien appris sur la couleur au métier d'art, puisqu'à l'époque, on était dans l'abstrait et qu'on m'a appris ce que j'ai toujours ignoré, les couleurs d'une façon abstraite. Or, pour moi, l'abstraction ne veut rien dire, puisque je m'accroche toujours à la réalité. Mais j'ai passé des années extrêmement joyeuses, puisque j'avais connu Jean-Claude à Charpentier. Donc, honnêtement, ça a été 3 ans de légèreté totale dans un Paris et dans le Marais.
En fait, c'est une histoire d'amour, surtout.
Exactement. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier que l'école était dans l'actuel musée Picasso. Autrement dit, on était dans un cadre absolument somptueux et dans un quartier du Marais qui était un quartier habité par des cafés de province qui venaient s'installer là. Donc c'était extraordinairement simple, joyeux, et ça n'a rien à voir avec le quartier qu'on connaît à l'heure actuelle. Mais ça a été formidable comme année de jeunesse.
Alors, vous commencez à dessiner en 1971 pour le groupe Bayard Press, pour des magazines qui sont des magazines mythiques, qui ont accompagné un certain nombre de générations, hein, Noël Ehrenschmidt, Pomme d'Api, Strapi, Okapi, etc. Il y en a eu d'autres. Hein. Qu'est-ce que vous y faisiez ?
Eh bien, figurez-vous que j'ai attendu 31 ans pour me lancer. Avant, je continuais de faire beaucoup de portraits. À la Sanguine, j'ai dessiné ma mère, j'ai dessiné mes filles, sans jamais la couleur. Et puis, à la naissance de ma troisième fille, à un moment où j'aurais dû être une bonne mère, j'ai décidé qu'il y avait un âge où il fallait que je me lance. Ça mûrissait. Moi, je suis lente à mûrir, mais quand j'ai mûri, personne ne peut plus m'arrêter. Et donc, j'avais fait un petit dessin de rien du tout. C'était l'époque où Bayard Press éclatait avec la presse pour la jeunesse. Et je me vois encore apportant une histoire qui s'appelait « La chasse aux papillons ». Quand je raconte ça à mes petites filles, elles me disent « Ça va pas, maman, mamie, non, on chasse pas le papillon ». Ben nous, dans la famille de mon mari, on chassait le papillon. Donc j'apporte une histoire suave d'une maman, d'un papa et des enfants, on va chasser le papillon. Je montre ça à l'équipe de Bayard Presse, de Pomme d'Api. Il y avait les femmes qui venaient d'avoir des enfants, celles qui attendaient des enfants. Tout le monde venait d'avoir des enfants. Moi, ma fille avait 1 an. Et c'est pris. Miracle total. Cette histoire est prise pour la fête des mères le mai suivant. Ça a été le démarrage de 15 ans de travail non-stop. Du jour au lendemain, j'ai cessé d'être une mère au foyer parfaitement heureuse et à la recherche d'elle-même pour être dans le boulot jusqu'au cou. Et ce que je trouve formidable, qui est-ce qui à ce moment-là a pris la relève et qui a été la maman ? C'est mon mari. Mon mari m'a dit, du jour au lendemain, il m'a installé une table au sous-sol, on était déjà dans cette maison, et il a totalement pris en charge toute la maison.
Ce qui fait qu'entre 1976 et 1984, vous avez réalisé 36 couvertures de Pomme d'Api. Alors, avec les héros de Pomme d'Api des années 70, tout début des années 80, c'était David et Marion. Et entre 76 et 84, il y a 80. Et c'est en 1980 que vous avez découvert le reportage. Quand Astrapi, je crois, hein, vous envoie à Calcutta, comme ça, du jour au lendemain, pour suivre Mère Teresa. Vous dites que c'était une découverte inouïe.
Ah ben sortir du confort de la maison que vous voyez, qui n'était pas ce qu'elle était, mais qu'enfin une maison chouette, facile, dans un quartier facile, et arriver à Calcutta, c'était un choc inouï, un choc énorme, salutaire, parce que du jour au lendemain, je me suis dit, mais ma vieille, t'es faite pour ça.
Vous aviez jamais quitté Sceaux encore?
Je n'ai jamais quitté Sceaux, je ne quitterai jamais Sceaux, au moins les choses sont claires.
Oui, mais comme vous avez voyagé entre-temps...
Justement, j'ai voyagé partout dans le monde, pouvait l'être, puisque j'avais une certitude, c'est que je revenais dans la maison. Donc je découvre, imaginez Calcutta, la misère, le mouroir, et ça a été un déclencheur phénoménal. Je ne vais vous pas dire que j'étais chez moi, mais en tout cas, j'étais faite pour ça. Et toute ma vie est faite de déclencheurs. Et ça, c'est le... Je me souviens malheureusement plus de son nom, celui qui faisait le rédacteur en chef d'Astrapi, qui a eu le flair de se dire, celle-là, on pourrait peut-être la faire faire, lui faire faire autre chose. Mais entre-temps, j'avais fait aussi de la BD pour Okapi, de la BD historique. J'avais fait les samouraïs et j'avais été à la bibliothèque Mazarine que mon parrain dirigeait pour chercher le roman de Genji. J'avais déjà fait de la prospection. Et je ne faisais pas un dessin sans me renseigner, mais jusqu'au bout, et faire une espèce de travail de recherche, alors que je faisais de l'illustration.
Oui, mais la documentation venait avant, alors qu'en passant en reporter, la documentation venait
exactement.
Sur place.
Donc je suis passée d'un monde à un autre, et toutes les étapes de Bayard Presse m'ont tout appris. D'abord le métier, on rend son boulot à l'heure, on sait discuter, j'ai tout appris à Bayard Presse, j'ai fait mes classes.
Qu'est-ce que vous retenez de ce premier voyage, en dehors du choc hein, de l'arrivée? Est-ce que vous vous souvenez du reportage dessiné que vous avez fait?
Oui, c'est-à-dire qu'attention, je n'ai pas fait le dessin en direct là-bas. Je l'ai fait en revenant à la maison, il faut être correct. Mais alors, ça m'a semblé, quand je revois ce livre, ça m'a semblé une évidence. Il y avait les regards, c'était quand même énorme ce qu'on voyait, le mouroir entre ses sœurs inclinées. Il n'y avait pas Mère Teresa, il y avait ses sœurs. C'est bien parce qu'on était totalement à la base du travail de ces femmes. Et j'ai souvenir des regards entre cet homme mourant et cette sœur. J'étais complètement impliquée là-dedans et parfaitement à mon aise. Et quand je suis revenue, tout est revenu dans le dessin. Et honnêtement, quand je revois ce livre... j'en changerai pas une virgule. Donc d'emblée, j'étais là où je devais être, dans l'humain.
Vous avez fait d'autres voyages, hein, ensuite. Hong Kong, où vous avez d'ailleurs fait des David et Marion chinois.
C'était pas des David et Marion chinois, c'était pour les jeunes, c'était l'âge plutôt d'Astrapi. Mais je me souviens de ce voyage, puisque là, 3 ans de suite, j'ai passé 5 semaines dans le monde des Chinois, dans des familles chinoises, en vivant avec elles, en parlant anglais alors que je suis nulle, mais avec eux j'arrivais à m'en sortir, et en faisant une BD que j'ai découverte récemment, qui est effectivement une BD du genre Astrapi, simplement pour des Chinois. La seule chose, c'est que contrairement à ce qui s'est fait après en Chine, moi, mes enfants avaient des yeux bridés. Ils avaient la peau mate, ils étaient totalement chinois. Et il est évident que ce n'est pas ça qu'attendaient les Chinois, puisqu'après, vous avez eu toute cette culture dans laquelle mes petites filles ont baigné, qui est la culture...
Les candies et autres,
exactement.
Vous voulez dire.
Autrement dit, mais moi, j'ai été dans le réalisme habituel à Hong Kong. J'ai beaucoup appris, justement, à vivre dans un monde que je ne connaissais pas, dans un lieu dont je ne connaissais rien, et à plonger. J'ai adoré ce travail qui m'a beaucoup appris pour la suite.
Au Vietnam,
alors,
c'était
le Vietnam,
dans les camps de réfugiés.
C'est intéressant parce que le Vietnam, c'est la première fois qu'un éditeur, Frédéric Houssin, vous en avez parlé, c'est là que je vais le voir, il regarde les dessins que j'avais faits en noir et blanc et il me dit cette phrase terrible, et la couleur. Et là, de ce jour-là, je me suis dit, ma vieille, tu vas sortir ta boîte d'aquarelle et tu vas nous montrer ce que tu es capable de faire. Je prends le RER. Je prends ma boîte d'aquarelle, je me fais dire par ma fille aînée qui faisait déjà de l'aquarelle, là, bien avant moi, qui me dit « Maman, pour le vert, il faut du sap green », et mon mari qui me dit « Ma chérie, il faut du jaune de Naples dans une boîte d'aquarelle ». Donc, avec l'aide de mes deux aquarellistes de base, je fais une boîte, je vais dans le 13e arrondissement et je plonge. Et je vous jure que dans la minute, l'aquarelle est revenue à mon pinceau comme si je ne l'avais jamais quitté. C'est-à-dire que c'est ça qui est inouï. D'une part, je pars en Inde, le dessin, il est évident. Je pars au Vietnam, la couleur vient d'emblée. C'est pour ça que j'ai jamais eu besoin de chercher. C'est venu quand le moment était venu. Et là, j'ai beaucoup appris parce que j'étais avec une journaliste à l'époque. On a fait le texte, on a fait l'histoire et c'était très émouvant parce que les boat people revenant... que j'avais été voir dans les camps à Hong Kong, retrouvant les familles au Vietnam, vous imaginez la part d'émotion que ça a pu donner. Et donc là aussi, je suis revenue, j'avais totalement trouvé ce pourquoi j'étais faite.
Vous en avez fait un livre
qui
dans
s'appelle
le sillage des boat people.
Voilà, exactement, qui est mon premier livre, avec dessins, aquarelles, les textes faits par une journaliste, mais de ce jour-là, j'ai trouvé exactement ce pourquoi j'étais faite. Et quand j'ai retrouvé, ça c'est une autre histoire, mais quand j'ai retrouvé Pierre Truche, que j'avais connu au procès Barbie, ma deuxième vie était lancée. Mais en tout cas, ces préparatifs dont vous parlez ont m'ont complètement confirmé ce pourquoi j'étais faite.
Quand vous regardez, Noël Ehrenschmidt, les dessins de l'époque, ces BD parus aussi dans la revue Record des éditions Bayard, les dessins que vous avez faits à Hong Kong, le livre sur les boat people au Vietnam, quand vous regardez tous ces dessins aujourd'hui, outre ce que vous êtes dit tout à l'heure, qui est, vous ne changeriez pas une virgule, par exemple, le dessin a beaucoup changé, je pense, entre ce moment début des années 80, 90 et aujourd'hui. Quand vous la regardez, qu'est-ce que vous vous dites ?
C'est-à-dire que dans les années dont vous parlez, j'ai fait ce que je vous ai montré, que je n'avais pas sorti depuis des années, de la BD en noir et blanc, façon gravure. J'ai fait un livre sur l'Inquisition, j'ai fait un livre sur Ariane pour les éditions des femmes. C'était aussi des années extraordinairement fécondes dans tous les sens. Je me vois faire de la gravure au petit pinceau et au double zéro. J'ai fait ça en mettant 15 jours à faire une planche au milieu de tout le reste. Je regarde ça en me disant, ma vieille, t'as tout essayé. Et puis il y a un jour où tout est devenu évident. Mais pendant les années où je me suis cherchée...
Entre 83 et 87, hein, là, il y a un petit
j'ai
creux.
J'ai tout cherché. Et d'ailleurs...
Mais pourtant, c'était avant les voyages, enfin avant Hong Kong, avant le Vietnam.
C'était pas dans Hong Kong, mais Hong Kong, c'était quelque chose de facile. C'était une BD, comment vous dire, j'avais raconté l'histoire des jeunes, c'était la suite d'Astrapi.
Bon. Et mais ça, l'Inde n'avait pas suffi.
L'Inde et Hong Kong n'avaient pas suffi. Absolument, j'étais pas mûre pour ça. Mais surtout, ça a été une période où j'ai été à la maison. Mes filles étaient adolescentes, ça a été des années extraordinairement joyeuses. Formidable. D'ailleurs, un de mes gendres m'en parle encore. Franchement, c'était formidable pour la création. Alors, je créais dans tous les sens sans que ça n'aboutisse jamais. J'ai fait une BD, je ne sais même plus où elle est. Bon, j'ai essayé dans tous les sens.
Et même vous parliez des éditions des femmes. Les éditions des femmes vous ont même commandé la suite d'Autant en emporte le vent. Vous nous racontez ça?
Ah oui, ça, c'est le pompon. Ça, je fais Ariane, l'histoire d'Ariane, avec le fil d'Ariane. Et puis, les éditions des femmes me disent pourquoi. Avec votre dessin, on ne ferait pas la suite d'Autant en emporte le vent. Ben pourquoi pas? C'était en 77, c'était il y a longtemps. On part aux États-Unis. Et bien entendu, pour partir aux États-Unis, je me dis, tiens, on pourrait peut-être faire un crochet vers le sud. On faisait le tour des États-Unis, ma sœur ayant épousé un Américain. Et on est arrivé à Atlanta pour rechercher la maison de Scarlett O'Hara, que nous avons trouvé. Donc ça a été un périple absolument inouï. On a même fait la couverture du livre avec le visage de Scarlett O'Hara. J'avais un peu de mal avec Scarlett O'Hara, mais j'avais trouvé mon personnage pour Mélanie. Donc tout était prêt et on n'a pas eu les droits des successeurs.
Tout était prêt, mais donc tout s'est perdu.
Mais
tout,
oui, rien et ben c'était comme ça. Ça faisait partie des aventures de cette époque-là. On tentait. On faisait pas, c'était pas un drame, on passait à autre chose et on avait essayé. En fait, pendant 10 ans, j'ai passé mon temps à tenter des choses qui ne se faisaient pas.
Il y a eu quand même quelque chose de décisif, un déclencheur encore, hein. Noël Ehrenschmidt, en 1987, vous entrez à la cour d'assises de Paris. Une révélation.
Alors ça, c'est choc total. J'avais ma carte de presse. Faut pas oublier ce qui peut étonner tout le monde, c'est que quand on dessinait pour la presse jeune, on avait sa carte de presse. J'ai ma carte de presse depuis 1974. On avait Papa Garel, notre président des dessinateurs de presse, qui m'a ma carte. Je prends ma carte et tout à coup, je dis à une copine qui n'avait pas sa carte, pourquoi on n'irait pas dessiner en direct, puisque j'avais envie de direct, à la cour d'assises. Elle n'a pas pu y aller, elle n'avait pas sa carte de presse. Moi, j'y vais.
Là, c'est l'autre pan, le pan paternel qui se réveillait.
Pourquoi, je vous le demande, j'arrive en assise avec, à l'époque, je faisais du dessin en noir et blanc, de la plume sur du Bristol. Vous voyez comme c'est pratique, la plume, avec l'encre qui bouge. Je m'en fous, j'y vais, je m'assieds à l'endroit où étaient les journalistes. Et j'ai un souvenir, mais ébloui, du procureur qui se lève et qui parle. Je ne peux pas vous dire le choc. Je fais le dessin comme si j'avais dessiné depuis 20 ans. Je reste dans ce procès. Je dessine ce procès et je me dis, mais ma vieille, tu cherches depuis des années ta voix, elle est là ta voix, elle est là ta voix. Qu'est-ce que je fais? Je monte où? À l'étage de la Croix, puisque moi j'étais au deuxième étage, on était près des Champs-Élysées à l'époque, hein, pour Bayard Presse, rue Bayard. Je monte à la Croix, je montre ça au directeur, et qu'est-ce que le fait le directeur? Il m'expédie
à Lyon,
chez Barbie.
Au procès Barbie. Et c'est ce que nous verrons demain. Merci beaucoup, Noël Ehrenschmidt. À demain.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Alexandre Martin. Réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.